Le maréchal sera d'abord conduit à Belfort, puis le 7 septembre en Allemagne. Il arrivera le 8 à Sigmaringen pour être interné dans l'ancien château des Hohenzollern. La guerre approche maintenant de sa fin. En France, l'épuration est sanglante. Les prisons sont pleines. Le nombre des exécutions sommaires atteint des dizaines de milliers. C'est en Allemagne où il est prisonnier que le maréchal apprend par la radio que son procès par contumace doit commencer à Paris devant la haute cour le 24 avril. Il tient à rentrer en France malgré les périls et son âge. Il veut se justifier d'accusations calomnieuses devant la nation entière. L'Allemagne est plongée dans le chaos. Le maréchal s'échappe de Sigmaringen et le 24 avril, jour de son anniversaire, il parvient à franchir la frontière suisse. Le lendemain, il arrive en France. Il est aussitôt arrêté et emprisonné au fort de Montrouge. Après un simulacre d'instruction, il comparaîtra le 23 juillet devant une haute cour d'exception. Le procès durera jusqu'au 15 août. Ce fut la démonstration que le maréchal Pétain était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Le procureur général Mornay requit cependant la peine de mort. Le bâtonnier païen, maître Jean Lemaire, plaidèrent. Je devais adresser ce dernier appel au juge de la haute cour. Messieurs les juges, j'ai encore dans l'oreille un cri jailli de ce côté-ci de la haute cour. Un des juges s'est écrié « Et nos morts ?» Ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble. Mais d'autres Français sont morts, eux aussi, sous les balles allemandes, et qui, au moment de mourir, ont crié « Vive le maréchal !» Je possède une lettre touchante, écrite à son père par un jeune homme, presque un enfant, la veille de sa mort, la veille du supplice qu'allaient lui infliger les Allemands. « Je sais le coup terrible, écrivait-il, que cela va te porter, je t'en demande bien pardon. Et si cela peut être une consolation pour toi, je vais faire en sorte que tu sois fier de moi. J'entends mourir courageusement, fièrement, en vrai français et faire honneur à mon pays. C'est la dernière et seule chose que j'aurais pu faire pour toi. Il faut que tu saches et répètes que ma dernière parole sera « Vive le maréchal, vive la France !» Si des hommes sont morts sous les balles allemandes en criant « Vive le maréchal !» ne pensez-vous pas qu'ils ont mené le même combat que vous ? Si des hommes ont été déportés, s'ils ont souffert en criant « Vive le maréchal !» ne pensez-vous pas qu'ils ont mené le même combat que vous ? Vous vous êtes ignorés souvent, heurtés parfois, mais ce sentiment profond qui faisait battre vos cœurs, qui vous faisait répandre votre sang, ne pensez-vous pas que c'était le même ? Et cependant, alors que vous animez ce sentiment commun, alors que vous vous sacrifiez à un même idéal, nous sommes aujourd'hui en présence de ce qu'on peut appeler le drame français. Ce drame, pourquoi existe-t-il ? Et c'est à vous, messieurs, de le dénouer. Je vous ai livré la pensée du maréchal Pétain. Je vous ai livré son action. Je vous ai rappelé ces hommes qui sont morts comme les vôtres, mais qui, eux, criaient « Vive le maréchal !» Je crois profondément. J'ai la conviction que tous, vous avez mené un même combat. Vous êtes maintenant parvenus à l'heure peut-être la plus solennelle de la justice française. Vous avez fait parler les morts. Vous avez appelé à votre barre le témoignage de ceux qui ont été persécutés. Vous avez ranimé le souvenir des captifs. Qu'à mon tour, j'appelle à votre barre les vivants, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été protégés. Vous avez entendu la voix des hommes qui sont partis. Laissez-moi entendre la voix des femmes qui sont restées. Qu'ils viennent tous aujourd'hui. Qu'ils forment cortège au maréchal et qu'à leur tour, ils protègent celui qui les avait protégés. Mais si malgré tout ce que je viens de dire, si malgré ce sentiment de la vérité qui est en moi, vous deviez suivre le procureur général dans ses réquisitions impitoyables, si c'est la mort que vous prononcez contre le maréchal Pétain, eh bien, messieurs, nous le conduirons. Mais je vous le dis, où que vous vous trouviez à cet instant, Que vous soyez à l'autre bout du monde, vous serez tous présents. Vous serez présents, messieurs les magistrats, vêtus de vos robes rouges, de vos hermines et de vos serments. Vous serez présents, messieurs les parlementaires, au moment où la délégation que le peuple vous a donnée de sa souveraineté s'achèvera. Vous serez présents, messieurs les représentants de la résistance, alors que ce peuple n'aura pas encore consacré vos titres à être des juges. Vous serez tous présents. Et vous verrez, du fond de vos âmes bouleversées, comment meurt ce maréchal de France que vous aurez condamné. Et le grand visage blême ne vous quittera plus. Car j'imagine qu'il ne s'agit pas de vous abriter derrière d'autres responsabilités que les vôtres. Et je ne l'évoque, ce tragique, cet inhumain spectacle du plus illustre des vieillards liés à la colonne du martyr, je ne l'évoque que pour vous faire peser tout le poids de votre sentence. Non, non, n'espérez pas de la clémence d'un autre. Si la clémence est dans la justice, elle doit être d'abord dans vos consciences. Songez seulement à la figure que donnerait à la France à travers le monde une telle horreur, et songez que le peuple atterré se frapperait la poitrine. Mais je crois que de telles paroles sont superflues. Les cris de la haine, le débordement des passions, les outrages sans mesure ont expiré au seuil de votre prétoire. Et elle est enfin venue, l'heure de la souveraine justice. Nous l'attendons, sûrs de tous les sacrifices consentis. Nous l'attendons avec la sérénité des justes. Nous l'attendons comme le signe de la réparation. Nous l'attendons aussi avec tous les souvenirs de notre longue histoire, de ses fastes et de ses misères, de ses agonies et de ses résurrections, oui, en cette minute même. Tous ces souvenirs se lèvent irrésistiblement en nous, comme ils doivent se lever en vous-même et forment l'image de l'éternelle patrie. Depuis quand notre peuple a-t-il opposé Geneviève, protectrice de la ville, à Jeanne, qui libéra le sol? Depuis quand dans notre mémoire s'entregorge-t-elle, à jamais irréconciliable? Depuis quand, à des mains françaises qui se tendent, d'autres mains françaises se sont-elles obstinément refusées? Ô ma patrie, victorieuse et au bord des abîmes, quand cessera-t-il de couler ce sang, plus précieux depuis qu'il n'y a que des frères pour le répandre? Quand cessera-t-elle la discorde de la nation? Au moment même où la paix s'étend enfin au monde entier, que le bruit des armes s'est tu et que les mers commencent à respirer. Ah, que la paix, la nôtre, la paix civile, évite à notre terre sacrée de se meurtrir encore. Magistrats de la haute cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, je le sais. Vous ne jugez qu'un homme, je le sais. Mais vous portez dans vos mains le destin de la France. Avant que la haute cour ne se retirât pour délibérer, le maréchal debout lut cette déclaration.
Au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. Ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse, pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains, mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France.
Condamné à mort, puis gracié, Philippe Pétain fut emprisonné au fort du Portalet, puis à la forteresse de la Pierre Levée à l'Île-Dieu. Le vainqueur de Verdun devait y rester près de 6 années et y mourir à 96 ans. Il était le plus vieux prisonnier du monde. Voici quels furent ses derniers instants. Lorsque le maréchal qui avait rêvé l'ultime station sur la colline de Douaumont, au milieu de ses soldats tombés dans la bataille, comprit qu'il terminerait ses jours dans la solitude de l'île-Dieu, que sans repos, sans répit, il lui faudrait jusqu'au terme porter sa croix, il dit à l'un de ses gardiens, « Donnez-moi une pelle que je creuse ici ma tombe. » C'est à l'île-Dieu qu'il est mort et qu'il repose encore. C'est de l'île-Dieu que montent les souvenirs tragiques, les souvenirs de la souffrance et de l'agonie. Pendant les 4 premières années d'une captivité inhumaine, le maréchal, résistant tel un chêne à toutes les atteintes, celles de l'âge et des hommes, avait conservé toute sa lucidité. C'est au cours des derniers mois seulement que peu à peu sa pensée entra dans la nuit. Voici les dernières visions. Pour la 10e fois, peut-être, nous avions pénétré dans la cellule où vivait le maréchal, cellule blanche comme celle d'un moine. Il était assis, immobile, au fond de son fauteuil. Avait-il changé? On ne s'en apercevait pas au premier abord. Dès qu'il nous vit, il se leva et vint à nous. Un vif émoi se peignait sur son visage. « mes amis, comment avez-vous pu venir jusque-là? Pourquoi avons-nous été séparés? Ah, quel plaisir, mais quelle joie! Pourquoi être resté si longtemps sans venir me voir? » Ses yeux se mouillaient, les traits étaient contractés et à plusieurs reprises comme pour s'excuser. « Vraiment, ma joie est un peu larmoyante. » Nous ne savions que dire. Nous étions tendus vers lui, vers le moindre de ses gestes. Il se tourna successivement vers l'un et vers l'autre. « Mais pourquoi suis-je ici? Dites-moi, quel grief a-t-on contre moi? Qu'ai-je donc pu faire ?» De son passé, de son gouvernement, il ne savait plus rien. Nous hésitions à répondre. Il se frappa le front avec la main. « Mon pauvre cerveau est maintenant vide. Mais cela reviendra, rassurez-vous. Je voudrais seulement savoir si les griefs qu'on a contre moi sont déshonorants. » « Mais non, monsieur le maréchal, en rien, il s'agit de problèmes politiques, alors que vous étiez le chef de l'État. Mais il n'y a rien de déshonorant, au contraire. »« Ah, il n'y a rien de déshonorant. Mon honneur est intact. Quel bien vous me faites, quelle joie vous m'apportez. Mon Dieu, je ne pouvais en espérer tant. Le directeur de la prison sait-il tout cela ?» Ses yeux de nouveau s'embrumèrent. Il voulait que son gardien connût qu'il n'était pas déshonoré. Mais déjà, il n'était plus présent. Il cherchait comme cherche un aveugle, les doigts en avant le long d'un mur pour trouver sa route. Tout était devenu pour lui une immense nuit au travers de laquelle il ne distinguait que les barreaux d'une prison inexplicable. On le devinait peinant, se débattant, qui luttait pour se souvenir, mais en vain. Quel auteur tragique eût osé concevoir pareille infortune. À la fin de l'après-midi, au moment de prendre congé, le directeur de la citadelle et le médecin passèrent les premiers hors du parloir. Le maréchal nous retint tous les deux par le bras. Il désirait nous prendre à part, être seul avec nous au moins une seconde. Miracle d'un instant, ce n'était plus le même homme. Sa lucidité était revenue entière, l'accent si grave et implorant à la fois d'une pitoyable intensité. « Sortez-moi de là, je vous en prie. Quelquefois j'ai l'air de plaisanter, mais comme tout cela est disgracieux. » Le mot paraissait choisi, volontairement modéré. Oui, disgracieux. Ah, sortez-moi de là. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être privé de liberté. Et l'obscurité, encore une fois, recouvrit cette prière que nous ne pourrions jamais exaucer. Par un soleil brûlant, nous descendîmes le chemin pierreux vers Port-Joinville. Nous marchions lentement, saisis d'une même tristesse et d'un même dégoût. Nous parlions presque à voix basse, comme pour garder secrètes les images déchirantes de ce vieillard torturé par sa prison, impuissant désormais à concevoir le drame qu'il y avait réduit. À la veille de remettre au garde des Sceaux la requête en révision, il nous pressait d'accomplir notre tâche, mais savait-il toujours ce qu'elle était, quelle mission il nous avait confiée? À une question précise, il avait dit, après avoir vainement cherché et se prenant le front entre les mains, « Je ne peux plus vous répondre. J'ai passé ma vie à agir, mais qu'ai-je fait? Aujourd'hui, je ne le sais plus. » Rien ne l'intéressait que le présent immédiat et sa promenade dans la cour. Il regardait les petits arbres desséchés, il les considérait en connaisseur, leurs branches misérables, déjà démunies de feuilles. « Voyez, la terre est pauvre ici, disait-il. Elle ne donne pas la vie. » Quelquefois, il ajoutait, « On me fait vivre écarté du monde. » Et personne ne peut me dire pourquoi. Mais cet affaiblissement des forces de l'esprit n'était pas celui qu'on rencontre d'habitude. Là encore, le maréchal était hors du commun. Aucune défaillance n'était apparente ou pénible à voir. Il semblait que tout s'effaçât sans que rien ne fût détruit. La fin de sa vie est restée pleine de grandeur, rien ne le diminuait. Sa stature, la beauté de son visage, sa tenue étaient intactes. Le 29 décembre 1950, quel pressentiment avait averti le maréchal que peut-être il ne serait plus jamais en mesure de nous parler. Ce jour-là, au moment où nous allions le quitter, abandonnant sa chaise longue, il s'était dressé. Certes, il se tenait droit encore. Cependant, on le sentait sans force, obligé par instant de s'appuyer au mur ou à l'un de nous. Il se mit à parler lentement, avec effort, cherchant ses mots comme si, rassemblant ses dernières forces, il nous adressait une ultime communication pour nous rappeler ses plus essentielles dispositions testamentaires. Nous avons vécu, disait-il, des heures et des jours pénibles. Ils comptent entre nous. Nous ne savons pas ce que sera demain, mais nous sommes liés pour toujours. Vous savez quelle est maintenant mon affection pour vous. Sa voix grave, un peu enrouée, se brisait à la fin des phrases. Le maréchal nous avait pris chacun par une main. J'ai confiance en vous, poursuivit-il. Et je vois sur vos visages que je ne me suis pas trompé. Eh bien, je vous ai confié une mission, il faut aller jusqu'au bout. Et pour cela, je vous demande d'être sérieux, mais pas d'un sérieux. Il hésita longuement sur le mot avant de trouver une expression étonnante. Pas d'un sérieux blafard. Restez gai, gai, avec mesure. Surtout, ne faites pas de blagues ni d'imprudence. Mais n'oubliez jamais cette mission, jamais. Puis, la lueur de son esprit vacilla. Il desserra nos mains qu'il tenait très fort dans chacune des siennes. Et de nouveau, la nuit vint obscurcir ses propos. Nous partîmes lourds de son dernier message. Nous devions le retrouver mourant. Le 7 avril au soir, le maréchal s'était alité frappé d'une double congestion pulmonaire. Pourtant, il n'était sorti que quelques minutes à peine, mais sur ce rocher exposé de toutes parts, le vent humide et froid avait soufflé avec violence depuis des jours. Tout de suite, après un frisson, le prisonnier s'était senti déprimé. Au cours de la journée du dimanche, la fièvre était montée, le médecin ne pouvait cacher son inquiétude, l'état était alarmant. Le maréchal en fut si conscient qu'il récita même à voix basse un « Je vous salue, Marie » et murmura par deux fois « Mon pauvre Philippe ». Le lundi, la fièvre tombait peu à peu. Les points de congestion se résorbaient, mais l'amélioration ne dura pas. Lorsque nous arrivâmes, Jean Lemaire et moi, le maréchal nous reconnut. La brusque affection dans le regard ne pouvait nous tromper. Nous ne voulûmes nous approcher de lui qu'un instant, le voir, nous pencher sur sa souffrance et le laisser reposer. D'ailleurs, le doyen de Port-Joinville, l'abbé Bailly, nous succédait. Le maréchal désirait rester seul en sa présence. Par la suite, nous apprîmes qu'il s'était confessé en pleine lucidité, lucidité dans la confession et lucidité des circonstances. Monsieur le maréchal, lui avait dit le prêtre, vous avez fait à la France le don de votre personne. Consentez-vous à lui offrir votre martyre en sacrifice? Oui, je le veux bien. Puis il embrassa la main du prêtre. Au cours de la nuit, on crut que tout était perdu. La voix faible, mais sur le ton du commandement, le maréchal, tourné vers sa femme, prononça distinctement « Ni pleurer, ni gémir ». La veille de son anniversaire, sa santé se rétablit miraculeusement, jusqu'au premier jour de juin où il fit une rechute. À la congestion pulmonaire s'étaient ajoutés des phénomènes de gangrène au pied droit. Les conditions de la détention étaient si précaires, si rigoureuses, qu'aucune opération ne pouvait être tentée sur place, et son état si grave qu'on ne pouvait le transporter sur le continent. On crut cette fois encore que sans miracle possible, c'était la fin, et cette fois encore, pourtant, contre toute attente, contre toute vraisemblance médicale ou même humaine, pour quelque temps, le maréchal recouvra la santé. Un décret de grâce, tardif et limité, intervint alors. Le condamné Philippe Pétain pourrait être transféré dans une maison de Lille. Nous nous y rendîmes d'urgence afin de préparer ce déplacement. Débarqués dans la soirée du 21 juin, nous avions gagné la prison. Le maréchal qui ne quittait plus son lit était endormi. Il ne se réveilla point. Encore amaigri, les joues creuses, le nez aquilin très dessiné, son visage si apaisé, était d'une remarquable beauté. Après l'avoir longuement regardé, je devrais dire admiré, nous le laissâmes à son repos que marquait bien la respiration régulière. La matinée du lendemain, nous l'avions passé à parcourir Port-Joinville à la recherche d'une maison. À son réveil, l'infirmière et le médecin avaient appris au maréchal notre venue dans l'île, et ce matin-là, il nous attendit en vain. Vers midi, il s'inquiéta. « Ils ne sont pas là ? M'ont-ils abandonné ?» Nous n'arrivâmes que vers 14 heures. Jamais je n'oublierai cette minute extraordinaire, la dernière vécue avec lui, près de lui, vivant, revenant à la vie, non, jamais. Elle nous eut payé à elle seule, au-delà et pour toujours, de toute notre peine, de nos efforts, de nos désillusions, si nous ne l'avions été déjà 100 fois. Alors que depuis des jours il somnolait sans parler, ou parlait sans suite, le maréchal, dès qu'il nous aperçut à l'entrée de cette casemate sombre, ruisselante d'humilité, se redressa contre son oreiller. Le bleu des yeux retrouva son éclat, le regard, cette bonté qui nous avait toujours témoigné, et la main tendue, sans hésiter et sans confondre, « Bonjour le maire, bonjour Isordi. » Ceux qui à tout instant l'approchaient lui avaient parlé de notre dernière lutte, et doutaient de s'être fait comprendre parce qu'ils restaient silencieux, mais le maréchal les avait compris. « Merci de tout ce que vous avez fait, dit-il, merci de tout mon cœur. Je sais qu'on a beaucoup parlé de moi ces temps-ci, c'est bien. » Ce furent ses dernières paroles lucides. Quelques jours après, on le transportait au centre de Port-Joinville, à proximité de l'église, dans une maison blanche avec des contrevents verts donnant sur la rue principale. Son état resta stationnaire avec des périodes d'agitation et d'abattement. Il répondait parfois encore aux questions de la vie quotidienne lorsque l'abandon des forces ne l'inclinait pas à la somnolence. Quelquefois, il devenait très pâle, la gangrène s'aggravait. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, la fièvre monta, la respiration se fit difficile. Le 18, il devint évident que tout était perdu. La dernière agonie avait commencé, elle dura 5 jours. Lorsque nous le vîmes le dimanche, le maréchal ne nous apparut plus que pareil à un mort qui respirerait. Ce visage creusé, osseux, décharné, c'était déjà un visage de cire, aux paupières mi-closes dans les orbites profondes, un visage abandonné par la vie. De temps en temps, de ses lèvres entr'ouvertes, s'échappait un gémissement ou un cri. Les volets fermés, la chambre plongée dans l'ombre, on distinguait une infirmière et une religieuse qui priaient. La maréchale, à bout de force, veillait sur un canapé les dernières heures qui n'en finissaient plus. Elle attendait, si digne et grave, que l'inévitable se produisit. Dehors, sous le soleil, c'était la fête saisonnière de Port-Joinville. Les baigneurs allaient tout à leur jeu, passaient en riant sous la fenêtre. La nuit du 22 au 23 fut identique à la précédente. Vers 8 heures du matin, cependant, le regard du mourant devint très fixe, les bruits du cœur imperceptibles. Il respirait à peine. Vers 9 heures, il eut un ou deux hoquets. À 9h22, Philippe Pétain, maréchal de France, le vainqueur de Verdun, martyr de ses concitoyens ingrats, avait cessé de souffrir.